Bonjour et bienvenue à votre émission d'actualité. Qu'en pensez-vous? On analyse, on décortique et on commente l'actualité ambiante. Et cette semaine, Jules Simard nous apporte sa sagesse monumentale. Non, mais pour vrai, je ne serais rien sans lui.
Ah! Merci, t'en mets trop, là. Faut faire attention, on perd la crédibilité quand on en met trop. Vrai, faut faire attention.
Non, non, nos échanges sont vigoureux et nourris par notre intelligence collective.
Ah, merci, ben, Jules. Là, en bas.
On commençait Dolbeau Misassini. Projet intéressant, une étude de faisabilité sur un projet de sériculture à Dolbeau Misassini. C'est quoi ce projet-là?
En fait, c'est un projet qui date de plusieurs années. Okay. Là, on a mis du monde là-dessus. J'ai-tu moyen de dire que des serres qui utilisent l'énergie d'une papetière ou d'une existe déjà dans d'autres dans d'autres coins de notre région. Et en même temps, il y avait eu effectivement des on voulait analyser qu'est-ce que parce qu'il se perd de l'énergie à l'usine, là, tu comprends, qui pourrait peut-être être et on avait ce projet de serre-là qui a été on a embouché une firme, là, d'après ce que j'ai pu comprendre, pour pouvoir être en mesure de voir qu'est-ce qui pourrait servir. Il y a effectivement une possibilité en travaillant avec Résolu, et on pourrait même le faire indépendant. C'est ça que le maire disait dans l'éventualité où il n'y aurait pas d'entente possible avec Résolu. Il pourrait y avoir un projet de sériculture qui pourrait être alimenté par ailleurs avec une autre source d'énergie, mais qui pourrait aussi se monter. Et on pourrait avoir un marché, il pourrait y avoir une rentabilité d'après ce que...
Bien, écoute, moi, là, on parle de l'énergie, là, ça c'est intéressant, c'est quelque chose, c'est quand même un projet intéressant. Mais au-delà de ça, je regardais une étude qui disait que d'ici 2050, il va falloir que la nourriture soit produite beaucoup plus près des villes. Donc, que 50% de la nourriture puisse être produite proche des villes. Ça nous donne un avantage aussi pour la population là, autour, là, je ne sais pas.
Oui, bien, probablement. On se rend compte que, bon, tous les coûts de transport... je prenais aussi un reportage hier à l'épicerie où on disait on vendait les pâtés au poulet. Okay? On faisait des pâtés au poulet. Et tu savais ça que Saint-Hubert, pour acheter son poulet, sais-tu où est-ce qu'elle prend? Au Québec. Non. En Thaïlande.
Mon Dieu.
Yes! Ils font venir le poulet de la Thaïlande. Puis là, bien, il est traité ici et...
Puis là, on pense que c'est un produit québécois.
Bien oui, c'est ça, tu comprends? Je veux dire, et ce qu'elle expliquait, c'est que, bon, le coût de production d'un poulet est beaucoup moins élevé, naturellement, en Thaïlande. Et même quand tu tiens compte du transport, tu avais, semblerait-il, la qualité recherchée.
OK.
OK, puis au Québec, il y en a qui produisent du poulet, là, quand on a un qu'à se souvenir ce qui s'est passé l'année passée, lorsqu'il y a eu une grève chez un abattoir. Et en parlant d'abattoir, d'ailleurs, on a un projet de.
Oui, on en parlait aussi.
Qui s'en vient. Alors, juste pour revenir sur le point en disant que ces produits-là de consommation le plus près, on le regarde. Maintenant, ce que l'on se dit, c'est que, tu sais, il veut dire, je peux, comme agriculteur, te faire du poulet. Mais si je le vends dans la région, je vais être obligé de le vendre beaucoup trop cher parce que...
On n'est pas... Ce serait pas concurrentiel
pas avec... Pas nécessairement.
Alors, mais là, avec...
Mais
quand on regarde l'avenir, là, l'inflation, le prix de l'essence, le coût du transport va augmenter. Puis en plus, du côté... environnemental, c'est vraiment mauvais.
Ah ouais, c'est sûr.
Je pense que c'est un débouché intéressant à long terme.
Là. Il pourrait certainement se regarder et on pourrait procéder à de l'analyse, effectivement, de projets en fonction de cet élément-là. OK? Y donner l'importance qu'il se doit d'avoir lorsque tu as des prérogatives en disant, bon, mais vous, il faudrait qu'on aille un produit vert, un produit plus environnemental, la question du transport rentre en ligne de compte automatiquement à ce moment-là et on peut voir qu'est-ce qu'il y en a.
Intéressant. Mais écoute, on va faire du pouce là-dessus. Mais on va en parler d'un projet d'abattoir mobile parce qu'on sait que, mettons, on consomme beaucoup de viande quand même, nous, au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et puis, on n'a pas d'abattoir privé là où les gens peuvent aller faire abattre leurs bêtes. Pourtant, on produit du bœuf. mais on est obligé de l'envoyer se faire abattre ailleurs, encore là, au niveau du transport. Projet très intéressant, là, un abattoir qui se promènerait partout dans la région où on pourrait faire abattre nos bêtes. Donc, on diminue le coût de transport. La viande est plus fraîche, plus près de ces marchés, etc. T'en penses quoi?
Oui, bien, effectivement, c'est pas un projet d'hier non plus,
non,
celui-là.
Non.
Hein? Ça fait plusieurs années que l'on discute de faire venir justement un abattoir pour que ce soit pour les veaux, les bœufs,
les cochons,
tout ce qu'il y en a, exact, tout ce qu'il y en a là, là-dessus. C'est correct que l'on le regarde puis qu'on puisse être en mesure de pouvoir. Maintenant, c'est qui va, où on va l'envoyer, là, cette viande-là? Est-ce que c'est sur un marché local? Est-ce que c'est sûr qu'on va vouloir aller sur le marché? Et, tu sais, qu'est-ce que Métro va faire si tu as demain matin, tu as du bœuf frais chez vous? Qu'est-ce que Métro fait? Métro va acheter ailleurs. Puis, ils te le ramènent.
Bien, un peu comme Patate que... Lac-Saint-Jean qui s'en va à Montréal avant de revenir sur nos tablettes d'épicerie.
Exact. OK. Or, tout dépend. Je pense qu'il y a, oui, un projet qui peut être intéressant, mais il faut être capable de le vendre. Et qui va acheter au départ pour pouvoir être en mesure de faire du détail? Est-ce que c'est le consommateur direct? Est-ce que tu vas devoir, comme agriculteur, avoir aussi un comptoir de vente sur ta ferme parce que tu veux rejoindre ou encore te prendre un local en ville pour être capable de...
C'est dans la distribution, là,
exact,
qui peut
y avoir. On peut faire un projet.
On pourrait-tu prendre le modèle des microbrasseries? Tu sais, dans le sens, les microbrasseries sont locales, puis ils réussissent à avoir un mode de diffusion de leur bière à travers tous les dépanneurs, épiceries de la région. Qui est relativement efficace, là. C'est rare que tu rentres d'un endroit où tu es prêt de trouver de la micro du lac.
Ce qui fait facilité, même si certains diront que c'est des problèmes supplémentaires, ce qui facilite la mise en marché des produits comme la bière, les microbrasseries, c'est le fait que tu te dois d'avoir aussi un permis de la part du, pas du ministère de la Consommation, mais de la SAQ, pour pouvoir être en mesure. Alors, parce qu'au Québec,
ouais,
les produits alcoolisés, c'est par la SAQ. Oui, il y a eu de la délégation. Tu peux vendre de la bière indépendante, tu peux vendre du vin, mais au départ...
C'est eux qui gèrent.
C'est ça. Or, ça a facilité. Je me souviens d'avoir fait un reportage dans le temps avec Laurie Desbois qui voulait mettre de l'avant son kir.
Oui.
OK? Bon. Or, elle m'expliquait que pour pouvoir être capable de vendre son kir, elle avait rien qu'une place où elle pouvait aller.
La SAQ.
Or, là, la SAQ, je me souviens, Denis Trottier avait travaillé énormément sur un dossier de cette nature-là pour permettre justement à la SAQ d'élargir le pouvoir de mise en marché.
Mais ça a déjà changé parce que maintenant, entre autres, là, les distilleries qui sont locales peuvent vendre à la distillerie.
Tu peux vendre direct.
OK.
Mais tu peux pas t'en aller puis dans le dépanneur ou dans un...
Là,
la mise en main. Alors, il y a tout ce phénomène-là qui a aidé. Est-ce qu'on ne pourrait pas avoir la même affaire pour le bœuf, disons, là, si on revient à ce qu'il y a...
Parce que ça représente 10... Ce qu'on abattrait au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ça représenterait à peu près 10% de ce qu'on consomme. Donc, on serait capable
de l'écouler localement.
Absolument. Ouais.
On serait capable.
Ça pourrait devenir même une fierté régionale. Là.
Un, deux, ça pourrait aussi te donner... tu sais, le bœuf que tu abats et qui a été élevé ici n'a pas le même goût que celui qui a été abattu dans l'Ouest canadien puis que tu consommes. Pourquoi? Parce que, bon, il ne mange pas la même...
La grosseur des cheptels aussi.
Un, c'est ça. Et deux, il ne faut pas oublier que pourquoi est-ce que on a les métros et IGA et... Provigo de ce monde achète justement et en grande quantité et à peu près toujours le même bœuf avec les mêmes spécifications parce que le consommateur est habitué à avoir tel goût.
Oui, oui.
Or, si tu manges, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé là, de manger pas de la vache, mais un veau qui a été élevé ici, tu n'as pas tout à fait le même goût. Il faut que tu te réhabitues. C'est un peu comme si tu manges de l'orignal.
Ouais.
Hein, ça ressemble à du bœuf, mais c'est pas du bœuf. Ce qu'il a mangé contribue au goût. Alors, ce phénomène-là est aussi en ligne de compte. Il faudrait donc rééduquer nos palais à être capables de manger et à trouver aussi... C'est pas parce que c'est pas bon, là, c'est pas ça que je dis. C'est parce qu'on est habitué à avoir...
Oui, mais il faut juste aussi bien cuisiner, là, à un moment donné, ça goûte pas juste...
Oui, mais tu changeras pas nécessairement
Non, mais tu veux dire du bœuf à ragoût, là, ça goûte le ragoût. Bref, revenons à l'album Mistassini, parlons du parc industriel. Ce qu'on s'aperçoit avec le temps, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui boudent le parc industriel de Dolbeau-Mistassini, tellement que Dolbeau-Mistassini est en train de davantage développer la partie industrielle dans la friche. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Est-ce que c'est la proximité avec Saint-Félicien? Le transport au niveau des ponts traversés de Dolbeau-Mistassini, c'est peut-être plus compliqué. Comment tu analyses ça, toi? Ça fait longtemps là, qu'il fait un peu pitié, le parc industriel à Mistassini.
Oui, mais c'est parce que... On a créé un parc industriel et à Mistassini, et dans le temps, c'était hors de Mistassini.
Oui, c'était
à Mistassini, c'était de l'autre. Or, on s'est fait des projets, hein? Ici, on avait un parc industriel aussi qui était quasiment dans le centre-ville, là, sur le boulevard Vézina, et on a élargi ce parc industriel-là dans d'autres secteurs. Ça permet de faire en sorte que tu sais, t'as investi de l'argent. L'autre bord, on avait aussi investi de l'argent pour être capable de... Et bon, et là, il vient demain matin, des avantages fiscaux ou pas fiscaux pour pouvoir t'aider à t'attribuer. Et bon, un tel s'installe, bon, OK, je vais m'installer dans le parc indien. Le fait que tu as eu deux pots. Tu n'as pas nécessairement favorisé. Tu n'as pas attendu de dire, écoute, on va remplir Mistassini, le territoire qu'on a là. Après, on viendra à Dolbeau. On a encore de la place pour le faire. Mais on n'a pas fait ça. On les a développés tous les deux en même temps. Et là, oui, tu peux peut-être avoir un accès, dépendamment de ce que tu fais comme ton entreprise, un accès plus privilégié. Supposons que tu voulais envoyer ton matériel par le train. OK, c'était beaucoup plus avancé, c'était beaucoup plus proche de le faire mettre à Dolbeau que dans le secteur Mistassini. Alors, d'ailleurs, il y avait un projet, on parlait de la sériculture. Tu sais, il y avait tout un projet à un moment donné, là, avec le pont, le fameux pont qu'on se devait, que le gouvernement libéral, pas libéral, mais conservateur de M. Lebel nous avait annoncé. Il n'est pas encore
bâti. Oui,
il n'est pas encore bâti. Hein. Ça, là, ça permettait d'avoir une surutilisation, mais une utilisation maximale de tout le potentiel qu'avait le complexe de la Syrie. Exact, avait tout un... Bon, là, le problème, il ne fonctionne plus, en tout cas, on n'en entend plus parler, là. Je trouve ça quand même dommage, là.
C'est dommage, parce que mais en même temps, si ça a tombé de même, c'est peut-être que le besoin n'était pas si grand.
Oui, mais ça permettait de... Faut pas oublier que le train, là, tu sais, quand tu vas à Alma, après ça, faut que tu fasses l'autre bord. Tu n'as pas de tour. Il ne fait pas le tour du lac, ton train, là. C'est un désavantage. Qu'on le veuille ou non pour Dolbeau-Mistassini. Oui. Moi, je pense que c'est un désavantage. Ça aurait été intéressant, effectivement. Bon, il n'y a pas de main qui est bâti.
Moi, je ne suis pas un entrepreneur, là, je ne connais pas tout, mais est-ce que ça aurait été possible de donner des vocations différentes au parc industriel de Mistassini de Dolbeau pour justement favoriser des investissements différents? De donner des avantages, par exemple. Ceux qui étaient à Dolbeau, ben ça te donne, je ne sais pas moi, accès à telle affaire, mais si c'était à Mistassini, ben ça te donne accès
à... Quand tu as un plaisir, bon, ben écoute, toute entreprise dans le développement des nouvelles technologies, même si on n'en a pas beaucoup, là, aurait dit, bon, ben écoutez, on va mettre ça dans tel secteur, faire créer des centres à cet effet pour pouvoir être en mesure de pouvoir développer nos parcs industriels en leur donnant, effectivement, peut-être que ça aurait pu être... Tu comprends? Ben, supposons qu'on se dit, on veut développer la transformation au niveau de l'agriculture et on prend un des parcs industriels, toute l'osmose, toute la symbiose
qui peut
se faire entre les entrepreneurs sur cette chose-là, ça, c'est facilitant.
Ça créerait une synergie.
On l'a peut-être voulu le mettre de l'avant, mais il y en avait un dans l'entreprise, donc ça t'en prend d'autres pour pouvoir créer ça.
Ouais.
Et puis là, ben, à l'autre, moi, je suis dans le secteur Mistassini, là, je vais peut-être m'installer plus dans le petit, ça va être plus proche de mes installations. Peut-être que ça aussi rentre en ligne de compte, mais... Il faut regarder, je pense, en se disant, oui, on aurait pu, on peut regarder encore. On peut encore regarder dans les parcs industriels en disant, oui, on favoriserait peut-être l'implantation de tel type d'entreprise dans tel secteur et de telle autre entreprise. Ça ne créerait pas nécessairement des ghettos, cela, là. Mmh. Ça permettrait justement de créer une symbiose entre des entreprises qui sont d'à peu près de même nature pour pouvoir être en mesure de le faire.
Ah! On en a des solutions, moi,
putain. Oui, mais tu comprends? Je veux dire, c'est sûr, bon, le parc industriel, dans le secteur Mistassini, il s'est développé tranquillement. Il y a certains types d'entreprises, entre autres, au niveau forestier, tu en as quand même des sous-traitants en foresterie et en transport. Il y en a beaucoup qui se ramassent là, et d'autres qui ont choisi autre chose, mais... Au départ, tu sais, je dis, prenons la question de transport du site. Quand ils ont voulu, quand ils se sont installés dans ce coin, le transport, oui, ils en faisaient du transport forestier, mais ils faisaient beaucoup plus de transport entre de produits finis que de matières premières, comme aller chercher une bille de bois dans le bois.
OK, OK, c'est intéressant tout ça. On va te ramener à ta prime jeunesse. Est-ce que toi, t'as fréquenté la Maison des jeunes?
Non.
Non? Ça existait-tu quand t'étais?
Non. Quand j'ai commencé à faire du journalisme dans les années 70, j'ai assisté par ailleurs à la naissance du Club social de Jouvenceau.
Bon, ben moi, j'ai passé une grande partie de mon adolescence là-bas. J'ai même été déjà roi du carnaval. À une certaine époque. Mais c'est pas de ça que je veux te parler, c'est l'importance de la Maison des jeunes, parce qu'on voit qu'il y a un gros investissement. On va remettre à neuf, en fait, la Maison des jeunes d'Albanel, avec un beau 40 000 $ quand même. Mais c'est parce que ça démontre aussi l'importance que ces organismes-là ont dans la communauté.
Oui. Tu sais, dans mon autre vie, lorsque j'ai été... attaché politique, à un moment donné, il y a eu une problématique à l'échelle de la région. C'était l'émergence des maisons de jeunes.
Ouais.
Il y en a eu à peu près partout. Tu étais dans une municipalité. Ouais.
Ça te fait une maison.
Tiens, je te fais une maison. On va se faire une maison. Il y avait un programme gouvernemental qui aidait et on a créé. On a oublié de mettre peut-être un peu plus de personnel d'animation. Mais en tout cas, ça, c'est une autre affaire. Lui, il était sous-payé, ce personnel.
Ouais, ouais.
En tout cas, peu importe. Là. Et on a créé. À un moment donné, c'est même devenu, OK, il était trop petit. La maison de jeunes devenait trop petite. C'était trop petit, non pas en termes... Parce que t'avais moins de jeunes qui y allaient. T'avais ce phénomène-là aussi qui est en train de ligne de compte. C'est plaisant de voir que peut-être à Albanel, effectivement, parce qu'il s'agit d'un équipement qui peut être très intéressant au niveau du développement social de notre jeunesse. Et ça représente un point. Et ça permet aussi d'avoir... Peut-être un endroit de contrôle.
Mais sans le contrôle, tu sais, je trouve que ça amène aussi un endroit de dialogue.
Ouais,
fait
ouais.
Que les gens réalisent des affaires. Moi, je me rappelle, la Maison des jeunes, des fois, là, les animateurs venaient sermonner ceux qui rentrent en boisson. Là, c'était quelque chose, ça faisait partie de l'éducation. Mais au-delà de tout ça, ça permettait à des jeunes d'être porteurs de projets qui avaient pensé réaliser. Moi, je pense au carnaval, je pense on faisait des tournois d'impro, on faisait plein de choses. C'est les jeunes qui s'occupaient de la caisse du magasin où on vendait du chocolat, des peanuts, puis tu sais. Bon, bref, ça nous permettait de mettre, d'apprendre, de gagner des habiletés.
En le faisant.
En le faisant.
Okay.
Je pense que ça manque des fois beaucoup, ces projets-là. Puis là, ça permettait aux jeunes de pas rien que faire des projets, mais de choisir les projets qu'ils allaient réaliser. Puis ça, je trouve que ça donnait de la confiance aux jeunes.
Et ça prend. Et à ce moment-là, l'encadrement que tu as à faire n'est pas un encadrement autoritaire,
exactement,
mais un encadrement d'accompagnement. Et un encadrement d'accompagnement, c'est la meilleure façon, je pense, pour montrer à des gens comment est-ce qu'on fait la réalisation d'un tel. Tu sais, quand on parle de réaliser un projet, on en parlait un peu avant l'émission, c'est aussi ce qui nous permet d'avoir de l'oxygène au niveau de notre cerveau qui nous dit que, ah, Colin, c'est agréable aujourd'hui, regarde, j'ai avancé de telle affaire. Tu sais, j'ai réparé 3 fois mes souffleurs, moi, la semaine passée. Ouais. Ils ont tout brisé de A à Z. Mais j'étais content de les avoir arrêtés. Là, ils fonctionnent jusqu'à la prochaine tempête, parce que quand il y a une tempête, un souffleur, ça brille. Mais.
Mais ça te donne juste... ça te donne confiance.
Exact.
En toi.
Et ça te permet, tu sais, c'est
même
ça.
Même
de
l'expliquer
projet.
À d'autres, un autre qui a le même problème, tu es capable de.
Et ça permet de faire en sorte que ces projets-là. Et ça, je suis d'accord avec toi que les maisons de jeunes, ça permet à notre jeunesse de pouvoir être en mesure de se monter un projet et de le mener à terme. C'est pas juste que d'assister à une partie de hockey parce que tu fais partie d'un regroupement de hockey.
Exactement.
Je veux dire, tu n'as un, t'as une réalité sociale qui existe aussi avec le hockey, mais c'est pas la même affaire, c'est monté. Il y avait à l'école, à côté de l'hôpital, là, avec les noms, là, à l'école primaire qui est à côté de l'hôpital.
Je sais pas,
là,
moi, je suis allé à l'école à Mississippi.
Ouais, mais en tout cas, il y avait un professeur qui faisait à chaque année un projet entrepreneurial.
Ouais.
OK? Et elle a pris sa retraite, là. Mais à chaque année, là, les étudiants, là, t'embarquais dans ce projet-là. Non seulement s'embarquait, mais tu avais le président du conseil d'administration. Elle lui montait toute une structure d'organisation et de fabrication de produits ou ouais. de services, parce qu'il y en avait que c'était des entreprises de services. Qu'est-ce que tu. Puis tu avais quelqu'un qui s'occupait de la mise en marché. Tu comprends ça, là? C'est à peu près la meilleure affaire.
C'est la meilleure école de faire. Les choses,
ben oui, c'est de faire. T'sais. Je veux dire, quand on nous dit, quand on nous parle en enseignement ou en pédagogie, il y a le savoir, savoir-faire et savoir-être. Le savoir-faire, là, il faut que il se développe en faisant et non pas juste en observant.
Oui. Puis on le sait, nous, politologues, entre la théorie puis le terrain, il y a souvent pas mal de différences. Parlez-en à Karl Marx.
Exact.
Bref.
Exact. C'est comme mon ami, moi, de la montagne.
Non, c'est correct. bon, hey, Rio Tinto. Là, l'aluminium est au sommet depuis longtemps. Même quand il était en dessous de 2000, on faisait des profits. Là, il était au-dessus de 3 000 $ la tonne. Là, le discours chez Rio Tinto est très optimiste. Est-ce que ça va débloquer sur des projets? Là, on se rappelle qu'à l'époque de Jean Charest, là, on était supposé investir 2 milliards de projets dans la région. On attend toujours, là... 1,5 milliard. Non, mais c'est-tu un bon moment? Puis là, on sent qu'il y a un optimisme. On le sait aussi que les syndicats ont fait leur travail. Qu'est-ce que ça va prendre?
Une demande.
Ouais. Ouais, ouais, mais la
non,
demande
mais
est
ce
là,
que
là,
je veux dire. Ben, en fait, attendons-nous quand t'es rendu à 3 000 $ et puis tu réussis à satisfaire ton marché. Tant que ça te prend une nouvelle demande pour pouvoir être en. Tu sais, je veux dire, moi, je pense qu'il y a. Puis d'ailleurs, dans le discours, ça sentait cette chose-là. Ouais. On a peut-être une capacité de production mondiale d'aluminium
plus grande.
Qui actuellement semble correspondre à la demande. OK, on a cette capacité d'y répondre actuellement. Et surtout au prix qui est là, ça te permet l'engrenage du brevet.
Comme si
et de pouvoir le donner. Mmh. Et de pouvoir le donner à tes actionnaires. Mais est-ce que, oui, il peut y avoir d'autres utilisations de l'aluminium? Et c'est peut-être là-dessus qu'il pourrait y avoir du développement, de la recherche. Donc, on pourrait utiliser nos centres qui sont ici pour pouvoir et d'investir là-dedans pour pouvoir être en mesure de dire, est-ce que ça... Parce que c'est que ça me donne de rebâtir une aluminerie. Si je suis obligé d'en former 2 autres parce que la capacité de production est là.
Ah ouais, moi,
puis la capacité de production qui va s'en venir, elle va être robotisée hein, de plus en plus.
Non, non, mais ça, c'est sûr qu'au niveau des emplois, c'est pas là que ça va
c'est
être
ça,
le
ça,
plus
ça,
gagnant.
Ça sera plus...
Mais moi, là, mettons, là, je veux avoir de la vision. Là. Moi, là, je veux avoir de la vision, j'essaie de comprendre la géopolitique mondiale puis comment les marchés vont se passer. Là, en ce moment, là, il y a une guerre là, qui va mettre 2 pays à terre, des gros producteurs d'acier, de métaux. Je pense là, que quand le marché va être prêt, là, nous, on va déjà être en retard. Là, parce que le temps de construire une usine et de pouvoir prendre les parts du marché, il faut être prêt à fonctionner. Mais tu sais bien que si on dit aujourd'hui, on crée une nouvelle usine, bien, on ne commence pas avant dans 2 ans. Là,
non, c'est sûr.
Fait que je trouve qu'il manque de vision, moi, Rio Tinto.
Possible. Ou encore, il ne faut pas oublier que Rio Tinto, c'est pas juste Hongrière.
Non. Puis la compagnie n'a pas juste l'aluminium, puis même que l'aluminium est une minime partie de leur exploitation. Pour eux.
C'est pas l'alcan, comme on dit.
Non, c'est ça.
Dans le temps, l'alcan, c'était juste l'aluminium. Mais peut-être que, oui, mais tu sais, on va dire, garde la guerre, là, qu'on dit là, actuellement. Oui, ça nous crée des opportunités, puis il faudrait peut-être. Sauf que, bon, ça, c'est tenir compte du fait que la guerre, elle ne sera pas éternelle. Elle ne sera pas éternelle. Alors, tu vas revenir à des conditions de marché qui vont avoir changé. Il est vrai. Par contre, ces conditions de marché-là, ils sont pas. Le marché, c'est pas illimité, celui-là. Je veux dire, moi, si j'ai besoin de m'acheter une automobile, j'ai pas besoin de m'en acheter 4. T'es d'accord avec moi?
Tu n'as pas les moyens.
Non, en plus, je mets pas un moyen de l'acheter. Mais indépendamment de ça, tu comprends ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est que quand on parle de questions de marché, oui, on peut en fabriquer de l'aluminium, mais moi, ce que je pense et ce que j'entends, à tout le moins, peut-être que je ne l'entends pas à 100%, mais ce que j'entends, c'est que on aurait des capacités de production d'aluminium actuellement, OK, qui ne sont, par les usines existantes, qui ne sont pas utilisées non plus à 100% pour répondre au marché. Donc, il reste encore de la place. Oui, il reste de la place pour engranger des profits, mais il reste que... pourquoi on crée une sur-offre?
Mais il y a une autre affaire. Rio Tinto là, a signé une entente avec le gouvernement. On va investir 2 milliards. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pour les obliger à respecter leur entente? Parce qu'on s'entend, là. Le 10 ans où il était souhaité d'investir le 2 milliards, il est dépassé depuis longtemps, là. Mais pourquoi on peut rien faire face à ces compagnies-là? Je veux dire, on a une entente signée, là. Si toi, tu payes pas, mettons, tu t'achètes une auto neuve, tu signes un contrat, puis à un moment donné, tu payes pas, là, bien, ils vont venir chercher ton char.
Dans ta compte, ça sera pas encore, long, là. Est-ce que dans le contrat qu'ils ont là, tu as
signé? Bien, c'est pas, c'est une entente secrète.
C'est en plein zone. C'est pas ce qu'il y a dedans.
Merci, Jean Charest.
On sait pas, c'est ça, on sait pas ce qu'il y a dedans.
Non.
OK? C'est quoi, là? Je te donne un ananas, c'est quoi le bonbon que tu me donnes, là?
Ils profitent toujours là, du taux d'électricité le plus bon au monde. Ils profitent.
Oui, des taux d'électricité, effectivement, parmi les plus bas. Ils bénéficient de la capacité de production d'électricité. OK? Quand il y a un conflit, ils nous la revendent. Non, mais tu comprends, ce genre d'entente. On peut-tu forcer une entreprise privée à faire quelque chose quand ce qu'elle fait actuellement lui rapporte énormément?
Non, mais je suis d'accord. Sauf qu'une fois que tu as une entente, tu dois la respecter.
Oui. Mais attends. La respecte peut-être, l'entente. Non, mais pas, elle est secrète.
Ah, ouais, c'est vrai. T'as raison. Bref. On va prendre une pause, nous autres, là-dessus. Merci, Jules. On se retrouve dans quelques minutes. Allez vous faire un café et on se revoit pour les nouvelles nationales et internationales. On parlera, entre autres, de l'Ukraine et du budget. À tout de suite.
L'inspirante Manon Brassard nous invite dans son atelier afin de nous apprendre à bricoler 1001 projets.
À chacun ses jeux, c'est une émission où moi, Sébastien Roy, et mon collaborateur, Nolan Vézina, on rencontre des joueurs, des distributeurs, des concepteurs, des amateurs, des utilisateurs de jeux de société. On a tous un point en commun, on est passionnés de jeux de société. Venez nous rejoindre dans notre cave, on va vous présenter nos coups de cœur. Vous allez sûrement trouver un qui va vous plaire, parce que c'est à chacun ses jeux.
Cet été, la Télévision du Lac s'en va à la découverte des attraits touristiques de la MRC Maria-Chapdelaine. Avec mes collègues, on va se promener entre Notre-Dame-de-Lorette, Gérardville et, en passant par Debout-Mistassini, bien évidemment. Touristes gourmands, hébergements, activités nautiques et encore plein d'autres surprises qu'on vous réserve, embarquez avec moi. Cet été, c'est ma tournée.
Oh, on est de retour. J'espère que vous avez un bon café devant vous pour nous écouter parce que là, on rentre dans un sujet assez important. Budget. Budget de la CAQ. Dernier budget de ce mandat-là de la CAQ. Bon, moi, ce qui me fait rire, là, c'est les gens qui disent « c'est un budget électoraliste ». Je veux dire, peu importe le parti qui aurait été là, aurait fait la même affaire. Là. Moi, ça me fait rire de penser que le Parti libéral fait « budget électoraliste », vous n'avez donc bien fait, vous autres, des budgets électoralistes. PQ, même affaire. Je veux dire, tous ceux qui ont été au pouvoir ont fait des budgets électoralistes. C'est de bonne guerre, là. C'est la prérogative du gouvernement sortant, quelque part, là, de
pouvoir faire ça. Est-ce que c'est un budget électoraliste? À part la mesure du 500$, est-ce que c'est un budget électoraliste?
Est-ce que c'est un budget... Bien, moi, je pense que oui, là. Parce que la mesure du 500$, ça fait du plaisir.
Ouais, je te dis, enlève-moi là. Hein? Enlève-la, là.
Non, mais c'est la figure phare, là. Ouais. C'est 3 milliards qu'on
va c'est 3 milliards sur un brevet, un budget de...
Beaucoup plus. Mais de quoi on parle depuis une semaine? Fait que dans l'imaginaire collectif, là, c'est ça qu'on parle. Donc, l'élément électoraliste, il fonctionne. Parce qu'à date, on parle que... Bien, il fonctionne. Il y a beaucoup de gens qui font... Ouais.
Tu veux faire avec ça, Zanin?
Non, mais ben, on va tous être contents d'avoir 500$. Mais la problématique, selon moi, c'est que l'inflation, pour lutter contre l'inflation, il faut limiter les dépenses pour diminuer l'inflation. Là, on donne plus d'argent aux gens qui vont le dépenser. Je pense pas que ça va régler le problème d'inflation. Et en plus, c'est un chèque, là. Le prix du gaz va continuer à monter, puis le prix de la bouffe va continuer à monter. Là. Fait que je pense qu'on ne règle pas. C'est pour ça que c'est une nanane électorale.
Le prix de l'électricité va continuer à monter.
Bien, grâce à notre bon gouvernement caquiste qui a décidé d'indexer à l'inflation quand tout le monde leur disait de ne pas le faire. Là. Fait que là, bien, il faut qu'ils reculent. Là. Ils vont dire, oh, on le fera pas, ça sera pas ça. Et que ça me fait rire, ça.
Non,
c'est quoi ton analyse du budget, toi, d'abord?
Ben, c'est un budget post-pandémique qui permet de faire en sorte que, et qui bénéficie du fait que nous soyons dans une période inflationniste. Parce que quand il y a de l'inflation, les taxes à la consommation augmentent, et de beaucoup, parce qu'on marque au pourcentage. Mm-hmm. Hein? Tu payes 13 % ou quand tu payes les deux taxes, 13 % au total sur ton bien de consommation.
Ce que tu as acheté. Mais si ce que tu achètes coûte plus cher, donc tu payes plus de taxes, donc ça met plus d'argent.
Donc, tu contribues encore à faire que l'inflation augmente et tout ça. Donc, le gouvernement, quand il nous retourne 500$ à chacun, là, OK? Il n'y a pas de problème, c'est nous autres qui le payons.
Ben oui, mais non.
On le paye. Quand on consomme, on le paye. Fait que là, il nous le retourne tout simplement pour qu'on reconsomme encore plus. Et là, j'embarque dans ton raisonnement. De faire en sorte que, oui, ça y est d'une mesure, même si, ben, c'est quand... Au total, c'est quand même 3 milliards que tu injectes dans l'économie.
Mais ça, ça ne fera pas baisser l'inflation.
Non, ça ne fera pas baisser.
Donc, ça nous fait
dire
que...
le vrai problème...
Bien, c'est ça qui me fait dire que c'est électoraliste, parce que l'objectif de lutter contre l'inflation, il ne sera pas atteint avec ça.
Non, c'est ça.
Ça, c'est pour faire plaisir à M. Macron.
Il ne l'a pas mis. On ne l'a pas mis collectivement comme objectif. Ce qu'on a mis comme objectif, c'est comment est-ce que tu peux nous aider, on est en période d'inflation. Bien, comment est-ce que tu peux t'aider, moi, t'envoyer 500$. Mm. Ça, c'est... Mais le vrai problème n'est pas là. Le vrai problème, c'est qu'on est en période inflationniste. Et cette période inflationniste-là, OK, elle peut nous coûter cher. Là, tu peux avoir, oui, la dévaluation de ta monnaie qui va pouvoir arriver le jour où ça va... Tu me diras que c'est un pays étranger qui nous permet de l'avoir, mais en tout cas, indépendamment de ça, lorsque tu vas avoir cette dévaluation-là, tu vas te ramasser comme en Russie là, actuellement, là, hein? Ta pièce, ça vaut rien. OK? Ton dollar vaudra quasiment plus rien pour pouvoir être capable d'acheter quelque chose. Ça va t'en prendre 8 000 pour pouvoir être capable d'en avoir. Alors, c'est ça qui aussi nous guette. OK? Si on se rend jusque-là, là, peut-être que la guerre nucléaire va faire en sorte qu'on ne se rendra pas jusque-là parce qu'on ne sera plus là. Mais, je ne veux pas jouer au prophète de malheur, mais je vais quand même en venir au fait que on n'a pas un budget pour régler parce qu'il n'y a pas un gouvernement actuellement qui veut arrêter l'inflation. On a, la meilleure façon d'arrêter l'inflation, c'est de faire décréter un gel des prix de salaire. Là, si tu décrètes un gel des prix et salaires,
ça, le patronat va pleurer du sang.
Alors, tout le monde va broyer. Bien, le patronat va peut-être moins broyer sur ton gel des salaires, mais il va broyer en étoile sur ton gel des prix. Ouais. Mais tu sais, c'est ça qui fait en sorte que... Et puis, ça, si tu fais ça, mais Trudeau, t'en auras plus de gaz.
Mais Trudeau peut le faire. Il fait les mêmes affaires que son père faisait.
Oui, il faut probablement un check bien... Le prochain budget, c'est
au mois d'avril.
Au mois d'avril.
On va en parler dans pas longtemps.
Peut-être qu'il peut nous arriver avec quelque chose, à ce temps qu'il y a une majorité.
Oui, on va parler de ça d'ailleurs bientôt.
Tout se tient là, là-dessus. Mais moi, si je regarde le budget actuellement, OK, qui a été présenté, ce n'est pas un budget effectivement pour contrer la question de l'inflation, c'est un budget pour continuer d'opérer. Par contre, on a voulu mettre là-dedans certains types d'investissements qui sont requis à la suite de la pandémie qui est là. Oui, on veut refaire, et fort probablement qu'on va en reparler, on veut refonder, comme on dit, le système de santé au Québec en tenant compte de ce qui va mal, et c'est ce qu'on nous a dit, là. OK? On a mis, si ma mère est fidèle, c'est 9 milliards. 9 milliards de dollars pour arranger ce qui, actuellement, gruge près de 60 % de toutes les ressources des dépenses gouvernementales. OK? On en vient à remettre encore un 9 milliards. Tant mieux, parce que ça va peut-être... On a réinvesti quelques sous au niveau de l'éducation, parce qu'on se rend compte qu'au niveau de l'éducation... Oui, on est...
C'est le temps?
Oui, mais c'est quand même... 1,5 milliard puis 6 milliards, je pense que, en tout cas, les chiffres de mémoire que je te donne, qui sont réinvestis. Puis, entre autres, on réinvestit dans, au niveau de l'éducation supérieure, on réinvestit quand même quelques milliards, pas un sur un an, là, sur plusieurs années, mais c'est pas grave, on le réinvestit. On oublie peut-être, il y a une réclamation de la part des étudiants 10 ans après qui dit hey, on devrait abolir les frais de scolarité, ça ferait peut-être partie. Ça ferait peut-être, on est frais de la scolarité au niveau de l'éducation supérieure, ça pourrait peut-être faire partie là, d'une mesure qui pourrait aussi s'annoncer. Et ça, ça aurait un effet bénéfique sur le développement de,
De nos générations futures.
Absolument.
On le voit, peut-être on voit les pays où il y a la gratuité scolaire, ils misent sur les cerveaux, puis au niveau du bonheur collectif, ils sont dans les premiers au monde, il n'y a pas de hasard.
Non, c'est ça, et c'est là-dessus qu'il faut peut-être aussi regarder. Est-ce qu'on s'en va vers... Pas actuellement, mais parce qu'on a, je pense qu'on veut investir, oui, dans l'embauche de personnel pour pouvoir être capable d'offrir de
meilleurs services.
Et on va investir, comme toujours, dans les bâtisses.
Oui, et puis pendant 10 ans, le gouvernement libéral de Jean Charest a investi en éducation, mais en éducation technique. C'était comme la chasse aux sorcières de l'intellectualisme. On voulait pas des gens qui réfléchissent, on voulait des gens qui savent faire des choses. Ça prend les deux. Ça prend les deux pour changer une société. Puis il faut revenir aussi à ça. Moi, je trouve ça vachement important.
C'est un budget, oui, qui essaie de régler certains problèmes de court terme qui sont arrivés à cause de la pandémie. Ouais. Mais on oublie complètement tout l'aspect développement de notre société. Et pour pouvoir être... On se fie sur l'inflation pour développer. Check bien ça.
Ouais, mais là, il y a d'autres problèmes qui n'ont pas été réglés. Parce que là, il y a une grave crise du logement partout. Vous voyez encore des reportages, là, des gens qui viendraient s'installer dans la région pour travailler parce qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, puis ils ne viennent pas parce qu'ils n'ont pas de place à rester. Là, ça, là, je trouve qu'il n'y a pas de mesure pour
non,
aider
pas
vraiment. Ça, c'est une problématique majeure. L'incitation à des gens, mettons, dans la soixantaine, qui pourraient revenir au travail puis pas se faire couper à cause de leur pension, à cause qu'ils font des heures supplémentaires. Tu sais, il y a des mesures qui auraient pu être faites de manière assez facile qui n'ont pas été prises. En tout cas, moi, je trouve que ça, c'est un manque. Et parlons-en de la refondation du système de santé. On n'utilise pas la réforme de la santé parce que on change juste le mot, là.
Fait...
Non, mais on n'a pas fait une, là. Je veux dire, moi, mon père était dans le système de santé, là, depuis que je suis tout petit, là. Que tous les ministres de la santé ont fait leur réforme. Et fondamentalement, une réforme, ça prend tout le temps 10-15 ans avant de voir les effets. Mais là, après 5 ans, on trouve que ça ne marche pas, puis on en refait une autre. Écoute, c'est interminable. Cette refonte-là, je m'excuse, là, mais il va falloir qu'il y ait des résultats en 6 mois pour que j'y croie.
Je pense qu'il faut qu'à bord, au départ, puis là-dessus, j'écoutais le ministre de la Santé, puis je pense que s'il veut aller dans ce sens-là, il peut peut-être... Un des éléments fondamentaux du système de santé au Québec, c'est qu'il repose sur les mains d'à peu près 7 à 8 000 personnes, soit les médecins au Québec. Mm-hmm. Pour pouvoir avoir droit à un service de santé, il faut qu'au départ, tu aies été voir un médecin. OK? Tu as un petit mal de tête, pas grave, c'est pas l'infirmière qui peut te le régler, ouais. Elle te le réglera pas. Il faut que tu aies le médecin qui te regarde et dit, coudonc, t'as mal à la tête, toi, hein? Puis si t'as mal à la tête, bien, regarde, m'a te prescrire des pilules pour pouvoir être capable, des aspirines pour pouvoir être capable de le régler. OK? Fait que là, tu te retournes de bord. Puis là, tu as besoin des pharmaciens, tu as besoin de tout le monde. Au départ. Or, pourquoi est-ce que ça nous coûte aussi cher que ça? Et avoir accès aux services de santé. Écoute, c'est pas 10 millions de personnes, là, Verriboire, qui peuvent te conseiller. C'est une couple de mille,
ouais.
Verriboire, à l'échelle du Québec, qui peuvent dire, oui, tu as le droit d'avoir ton service. Genre, je te rouvre la porte. Que tu rentres dans la santé, je te donne un petit papier comme de quoi qu'il va faire. Je ne veux pas dénigrer le travail des médecins là, en disant ça, mais je vais essayer d'illustrer.
Mais il y a un fonctionnement dans l'accessibilité
exact.
Qui est problématique parce que.
Et puis tout souvent, le monde, c'est parce que tout le monde le reconnaît, c'est ça. Regarde, ouais. Une madame enceinte, hein, une femme enceinte qui veut accoucher, ça fait pas longtemps qu'on lui permet de se faire accoucher par une sage-femme. Mm-hmm.
Non, puis de voir des infirmières qui pourraient régler une bonne partie des problèmes. J'avais vu un projet pilote d'ailleurs, là, je ne me rappelle plus c'est où, mais où on filtrait les appels, puis finalement, pour un cabinet de médecin, parce qu'on avait aussi accès à des physiothérapeutes, des infirmières praticiennes, etc., bien finalement, il n'y avait que 30 % des gens qui appelaient qui se ramassaient devant un médecin. Ça désengorge un système.
Oui, bon, ben, tu comprends, et fort probablement, en fait, l'orientation, je sais que le ministre a... Faites valoir qu'il peut y avoir un partage de l'accessibilité aux professionnels de la santé, un partage de responsabilité. Il veut le regarder. Et s'il le regarde, puis si on en arrive à des éléments concrets, je pense qu'on peut désengorger à tout le moins l'accessibilité aux services de santé. Et c'est peut-être une des problématiques qui fait en sorte que... Parce que c'est bien beau de dire, bien, il nous manque du personnel en soins infirmiers. Oui, bien, le personnel en soins infirmiers, si là, t'en fais un qu'une technicienne au lieu d'en faire quelqu'un qui peut intervenir auprès de la santé, c'est beaucoup moins agréable. Elle va peut-être préférer s'en aller super clinicienne.
Super infirmière. Ben,
super infirmière. Bien là, les super infirmières, ils n'ont même pas de pouvoir non plus. Il faut qu'ils attendent que le médecin il dise ce que toi, ce que tu as diagnostiqué, le médecin dit ben ouais, c'est ça. OK.
Ouais,
lui, le médecin, lui, il encaisse 500 piastres pour pouvoir te dire oui, c'est ça. Elle, elle a son salaire.
Ah non, mais t'as raison. Je me rappelle d'être allé voir un pharmacien parce que mon garçon faisait une conjonctivite. Il m'a regardé, il fait il y a clairement une conjonctivite, mais si tu veux un médicament, il faut que tu sois un médecin.
Il faut que tu ailles un médecin.
Fait que je suis revenu le voir 7 heures plus tard avec un papier qui a pris 2 minutes au médecin à faire parce que le reste était de la
l'attente. Et que lui, il a encaissé tout à l'heure pour le
faire. Oui, oui, oui. Puis,
mais je pense que c'est un peu là-dessus.
Puis, ma grande peur, c'est de donner une partie du système de santé au privé.
J'espère qu'il n'ira pas là.
Parce que là, on perdrait vraiment tout le côté, justement, universel de notre système. Puis ça, ça avantagerait encore ceux qui ont de l'argent par rapport à ceux qui
en ont
pas.
En plus, ce que je trouve dommageable, là, c'est que, tu sais, il ne faut pas oublier que tout le personnel qui travaille dans le secteur privé, c'est tout du personnel que tu as formé à même les taxes de toute la collectivité, OK, puis qui se ramasse de l'autre côté en disant, écoute, mais que tu viennes me voir, là, OK, il va falloir que tu payes le temps pour pouvoir être capable d'avoir mon service. Aïe, toi, c'est nous autres qui t'a formé, là, Verriboire. Ça me choque, ça. Je me
choque. Correct, correct.
Là, tu me fais monter ma pression, je vais être obligé d'aller voir un médecin. C'est pas bon.
On va parler de quelque chose qui doit te faire plaisir. Une entente entre le Parti libéral du Canada et le NPD pour maintenir le gouvernement, à moins là, bon, qu'il y ait des mésententes majeures, maintenir le gouvernement jusqu'en 2025. C'est pas une coalition. Moi, j'aurais aimé ça, une vraie coalition, parce que ça aurait donné bien, plus d'importance au NPD qui aurait eu moins l'air du chien de poche de Trudeau. Mais en même temps, il va faire avancer les dossiers comme son assurance pour les santé, assurance médicaments et puis pour les dents, assurance dentaire. Donc, il y a de quoi d'intéressant. Et moi, dans mon analyse, tu me diras si tu n'es pas d'accord, quand on est en période de crise, ça nous prend des gouvernements plus stables et plus paternalistes. Donc, moi, je trouve que c'est un bon moment pour faire ça. Puis quand on n'est pas en moment de crise, là, ça nous prend des gouvernements plus idéalistes. Mais là, on est clairement dans un mouvement. Tu sais, on a COVID, hyperinflation, après ça, montée de la noire, guerre. Tu sais, je veux dire, là, en ce moment, je veux avoir ton avis là-dessus. Puis je veux terminer en disant, ben moi je trouve que c'est pas une mauvaise idée, là, honnêtement, là, pour la stabilité.
Je trouve même que
si les conservateurs chialent beaucoup en ce moment, c'est avantageux pour eux parce qu'ils auront un chef juste à l'automne et l'usure du pouvoir va être encore plus forte en 2025, donc ils auront bien plus de chances de gagner une élection. Mais je trouve que les bloquistes ont manqué le bateau. Parce qu'ils sont pas dedans.
Là-dessus.
Non, mais ça aurait dû être eux autres, je dis, qui disent, hey, nous là, on pourrait faire une coalition. Imagines-tu l'argument qu'on le dit tout le temps? Hey, on ne sert à rien de voter pour vous autres, vous n'êtes jamais au pouvoir. Mais là, hey non, on fait avancer des points. Ben, plus, ils se targuent de dire, nous, on est dans le dialogue, on veut trouver des solutions. Vous êtes où, là? Et ça aurait dû être vous, là, pour le Québec, qui arrêtez là. Vous avez été chercher des points pour le Québec à la place de... Mais bref, ils sont pas là.
Ils
préfèrent faire du cas par cas, ça leur appartient. Moi, je trouve que c'est une mauvaise lecture. Là,
moi, je pense que c'est une affiliation... naturel.
Absolument.
OK? Entre le PLQ et... pas le PLQ, le PLC et le NPD. Pourquoi ça? Parce qu'il y a effectivement des mesures à caractère social qui sont habituellement annoncées...
Les libéraux Trudeau sont assez à gauche.
Oui, tu sais, qui peuvent s'avancer puis qui peuvent se mettre là-dessus. Je trouve ça correct. Par contre, ce que je pense, que le NPD n'en a pas négocié assez pour donner ça.
Bien, moi, je trouve okay? aussi. Il devrait être au gouvernement.
En plus, les deux grandes idées phares de cette alliance sont non pas de la juridiction du fédéral, mais de la juridiction des provinces.
Mais
en tout cas.
Mais ça, t'as raison, mais les provinces font rien. Le fédéral est là aussi pour couvrir les angles morts, là.
Ouais, ouais. Mais ça s'appelle... du dédoublement de services et de compétences.
Bien, à place de... Attends, avant de se fâcher face à ça, pourquoi on ne s'assoit pas et on n'essaie pas de trouver un terrain d'entente puis une manière de fonctionner? Je suis tanné, moi, tout le monde fait juste compétences fédérales, provinciales. Là, ça charge chacun de leurs bords. Assoyez-vous, discutez, trouvez des solutions à la place de vous écœurer. Si, boire!
Mais ça, là-dessus, c'est parce que quand tu décides qu'il faut qu'il y ait, à l'échelle du Québec, du Canada, un service de garderie, à Anne-Marie ou c'est quoi, Anne-Marie.
Oui.
Quand tu décides ça, c'est pas, t'as théoriquement pas la compétence de décider et de le mettre en pratique. Là, il faut que tu t'entendes avec chacune des provinces.
En disant, qu'ils ont fait.
Puis là, la province dit, hey, moi, c'est 4 milliards, il faut que tu m'envoies par année. On va dans, il existe déjà, là, au Québec, entre autres. Envoyez-moi 4 milliards. Puis, demande-moi pas ce que j'ai fait avec, que je vais avoir fait.
Ouais.
T'as fait des galeries. En Alberta, où est-ce que tu l'as pas, le service? Bien là, tu négocies avec en disant combien de temps ça pourrait coûter. Bien, moi, écoute, j'ai pas d'argent pour le mettre de l'avant.
J'ai juste du pétrole.
Rien du pétrole. Donc, mets-moi de l'argent, puis je vais pouvoir être capable de le faire. Ce que tu fais quand tu fais ça, c'est que tu permets à quelqu'un qui a une compétence de pouvoir réaliser un projet de mise en place d'un service qui va s'adresser effectivement à l'ensemble de ta population. Et quand tu fais ça 10 fois, plus une fois avec les territoires, tu réussis de faire en sorte que tu as une politique, non pas Anne-Marie ou Squad Anne-Marie, mais 10 politiques.
Qui respecte les réalités territoriales.
Exact, OK? Mais ce que tu fais, là, c'est que quand tu promets ça, ce que tu promets, c'est que dans 15 ans, tu vas peut-être avoir un système qui va être Anne-Marie ou Squad Marie. Pourquoi? Parce qu'il faut que tu négocies ça avec tout le monde. Mmh. Parce que tu n'as pas le pouvoir de le mettre. C'est pas toi qui a le pouvoir de le mettre.
Non,
tu as un pouvoir d'argent pour être capable d'aider.
Mais je pense que c'est intéressant, mais il faut s'asseoir de bonne foi pour négocier. C'est oui. Parce que je trouve que on est souvent dans les rideaux, là, hein, touche pas à mes affaires, là. Tu sais, un enfant, là, touche pas à mes jouets, là. Voyons, si mois.
Encore, touche pas à mes jouets, mais envoie-moi que 35% de ma facture.
On peut-tu se montrer plus intelligent que le problème? Bon, tu sais, avoir une ouverture, puis arrêter, là, d'avoir une sensibilité, là, si... Moi, là, la victimisation, là, touchez pas à mes... Si je te cœuré. Excusez, là, j'ai sacré, là. Mais vraiment, là, c'est le temps qu'on passe à d'autres choses. Je veux... Bon, vous avez fait le tour pour moi, là. Non, mais je veux...
Non, mais je vais juste finir sur la question du PLC et du NPD. C'est la... En fait, est-ce qu'on n'assiste pas aussi à la baisse d'influence du NPD à l'échelle des autres années?
Absolument.
Et ça, c'est fort probablement... On sait qu'il y a déjà eu ce genre d'entente-là entre, c'est drôle à dire, le gouvernement du pire de Trudeau et M. Stephen Lewis, qui, dans le temps, avait fait une entente de cette nature-là. Et après les élections, le NPD, a tombé partout parce que, bon, celui-là qui va le réaliser, comme dirait mon ami Bruno de TVA, celui-là qui va le réaliser, c'est le Parti libéral.
Oui, d'où l'important. Moi, je trouve qu'ils ont mal négocié. Ils auraient réellement fait une coalition, parce qu'avec une coalition, on aurait eu des gens au gouvernement.
Ben, il aurait pu avoir, effectivement, des personnes au gouvernement. Il aurait peut-être été davantage lié, en faisant ça par ailleurs, à... l'approche libérale, OK?
Oui.
Mais à tout le moins, ils auraient pu invoquer le fait que c'est parce que nous étions au gouvernement que nous avons pu faire réaliser cette chose-là, ce qui ne se donne pas. D'autre part, il ne faut pas oublier que le NPD est loin d'être capable d'aller en élection.
Ben oui.
Hein? Bon, ça, ça rentre
ben
en ligne de compte.
Ben oui.
Donc, pour lui, c'est une
ça, c'est ce qu'on ne dit pas, mais tu aurais parfaitement raison.
C'est ça. Et mon dernier élément... Et voilà la porte de sortie que Justin Trudeau voulait avoir pour sacrer son camp.
Oh!
Je suis désolé, c'est mon dada.
Ouais,
mais c'est sûr et certain que c'est la meilleure porte de sortie qu'il ne voulait pas avoir pour sacrer son camp. En plus, les conservateurs n'ont pas de chef. Il faut qu'ils fassent élire un chef. Il faut qu'elle donne son opposition. Son opposition
c'est pas
va
fait,
être...
les conservateurs.
Exact. Son opposition est aussi fragilisée. Il a la possibilité de laisser à Mme Freeland un parti qui, actuellement, est en position pour faire 3 années intéressantes parce que l'autre vient de dire que voilà. Check bien ça.
Ouais. C'est bon, c'est bon. Là, on devrait sûrement parler de la 6e vague et de la 6e vague de COVID et de la 4e dose de vaccin qui s'en viennent, mais on n'a pas le goût, fait qu'on n'en parlera pas. Je vais t'amener plutôt en Ukraine. Bon, le conflit s'enlise. On est à un mois à peu près du conflit. Des grosses discussions. Le ton a changé. On voit des nouvelles armes arriver. Moi, on ne tombera pas dans la stratégie militaire. Mais je veux parler du budget fédéral qui s'en vient. On sait qu'on n'accote pas, on est à peu près à 1,2-1,3 % d'investissement de notre PIB dans le militaire. Puis en plus, on investit mal en achetant les vieilles affaires qui vont être finies bientôt. Là, est-ce qu'il faut s'attendre? Parce que là, il va y avoir une problématique dans ce budget-là. Là, on a creusé un énorme déficit avec la COVID. Là, il faut investir davantage dans notre militaire. Mais là, il faut aussi répondre aux attentes du NPD avec l'assurance dentaire. Donc, ça va être de l'argent à mettre encore et encore et encore. Qu'est-ce que tu t'attends? Pour toi. Moi, j'ai l'impression qu'on va investir beaucoup dans l'aviation, les brise-glaces. C'est surtout la protection du Nord, là. Moi, je pense qu'il y a là notre enjeu, là.
Actuellement, oui, à l'évidence, ce point-là est... il faut moderniser, effectivement, l'équipement qui nous sert.
Le système de radar dans le Nord
exact,
est complètement désuet.
La pression d'investir davantage au niveau de l'OTAN va aussi être là. OK? Il va falloir...
Puis je pense qu'on va répondre présent.
Donc, je pense... Bien, on peut pas reculer.
Bien là, on est là, on est là.
Non, ils peuvent plus reculer. Puis avec ce que Trudeau a fait de beaucoup des trois
dernières
semaines...
Oui, puis là, il y a une unité au niveau de l'OTAN qu'on n'a pas vue depuis les années 60.
Bien oui, puis au lendemain. Oui, il va falloir qu'ils investissent dans... À quelle hauteur, Je ne sais pas, probablement qu'ils sont beaucoup plus qualifiés que moi pour
pouvoir. Moi, je pense qu'on va aller à l'équivalent de, je sais pas, 2,5-3% du PIB. Là.
Peut-être.
De toute façon, là, on le sait, là. Nos avions sont désuets, nos bateaux sont désuets, nos skidous sont. Non, mais je ne sais pas ce qu'ils ont, là, mais les bateaux, puis les avions, puis les hélicoptères, je veux dire, ça, ça date tout, là, d'un autre millénaire.
Ah, oui, exact, exact. Il va falloir, et fort probablement qu'il devra répondre oui à cela. En ce qui regarde les autres mesures, il va se donner du temps pour pouvoir être en mesure. Mais n'oublie pas une affaire.
J'oublie pas.
N'oublie pas que le gouvernement fédéral a aussi une taxe, c'est un pouvoir qu'on lui a donné lors de la Deuxième Guerre mondiale, de taxer ta consommation. Et n'oublie pas ce que je t'ai dit au tout début. On est en période inflationniste. Donc, mes revenus, là, ils viennent aussi d'augmenter. Mmh. OK? Or, est-ce qu'il va être capable d'aller chercher, à cause des revenus, c'est pas le plus gros des revenus au fédéral, la question de la taxation, mais la TPS, là, est quand même là. Je sais qu'elle doit servir pour payer des choses antérieures, mais il reste qu'on sait qu'on l'utilise aussi à d'autres fins. Alors, ce que je m'attends, c'est que, oui, peut-être pas nécessairement une augmentation de la taxe fédérale, mais une augmentation encore des dépenses. Est-ce que ça va être absorbé par le déficit? Peut-être, OK, mais il y a quand même des revenus supplémentaires qui vont rentrer et qui vont pouvoir permettre, pas donner des grosses marges de crédit, des marges de manœuvre, mais qui vont pouvoir être capables de faire en sorte qu'on s'enclaire peut-être au niveau de notre poche.
Ouais.
Je pense qu'on peut s'enclairer à part les taxes de consommation.
Ouais.
Ben, je pense. Mais il est obligé. Il est obligé, effectivement, de rehausser avec tout le discours là, qu'il tient actuellement.
Non, puis moi, je pense que la protection du Nord de l'Arctique va être de plus en plus. Je serais vraiment pas surpris. Moi, mon pari, c'est une base militaire américaine dans le Nord du Canada. Parce que les Américains adorent avoir des bases militaires dans d'autres pays. Et on n'est pas capable. Tu sais, je veux dire, toute l'armée canadienne rentre sur une base militaire américaine. On n'est pas capable. Ce territoire-là est trop vaste. On va avoir besoin d'aide. Puis je pense que l'OTAN va demander.
Puis le NORAD aussi, peut-être, davantage. Il va peut-être. Je pense qu'on peut peut-être. Parce qu'il y a toute la question de la surveillance aérienne, c'est quand même NORAD.
Oui. C'est que...
Et fort probablement que le budget de NORAD, ce qui est consacré de notre partie en arrière, peut peut-être aussi être augmenté. Donc, faire en sorte que tes investissements militaires soient peut-être à hauteur de ce que tu annonces, de ce que tu prévois.
Merci, Jules. Toujours un plaisir de discuter avec toi de tout, en fait, mais surtout de l'actualité. Merci à vous d'avoir été là. Nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Je ne serai pas là, mais il y aura des gens qui vont vous informer. À la semaine prochaine. Bye bye.